Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genas, le 2 février 1989. Alors nous allons essayer de comprendre au plan philosophique, hein. Je dis bien au plan philosophique. Nous n'avons pas de choses à dire beaucoup sur la vie végétative. Alors que la science biologique et la médecine peuvent dire beaucoup de choses là-dessus. Les régimes, hein. On sait bien ce que c'est. Et il y a des gens qui soignent uniquement par les régimes. Pas étonnant que vous êtes malade. Vous prenez du café au lait tous les matins. C'est du poison. À petite dose ou à grande dose, c'est du poison. Vous prenez du sucre, c'est du poison. C'est pas étonnant que vous êtes malade. Il suffit de changer un régime. Je connais des personnes qui me disent ça, mais catégoriquement. C'est vrai, c'est pas entièrement vrai. Dans certains couvents, on change l'horaire complètement de la nourriture en disant que c'est complètement absurde de prendre à midi un bon repas, surtout quand c'est une fête. À midi un bon repas, on fait la digestion jusqu'à 3h, 4h de l'après-midi. On n'est pas éveillé du tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire un bon repas le matin, rien à midi, et puis à 4h, c'est tout. Deux repas par jour, ça simplifie. Il y a moins de vaisselle. C'est très vrai. Au début, on s'est dit, on va étudier ça de près pour essayer de voir s'il n'y a pas à changer ces vieilles traditions monastiques qui ne bougent pas. Et il n'y a pas que les traditions monastiques. Le matin, le petit déjeuner. Si on ne servait pas le petit déjeuner, mais les gens hurleraient le bon peuple de Dieu. Pas de petit déjeuner, puis on mettra les anglo-saxons. Pas de petit déjeuner. C'est affolant. Il y a un repas du Seigneur le matin pour confirmer pour confirmer que le petit déjeuner, c'est un repas sérieux. Il y a du poisson. Grillé. Alors, vous comprenez. Si j'avais le temps, j'aimerais beaucoup faire une philosophie du vivant au plan philosophique avec la coopération d'un biologiste. Je le ferai peut-être. Alors, Fribourg, j'avais trouvé des biologistes qui acceptaient, puis pratiquement ça n'a pas pu se faire. J'aurais aimé beaucoup ça. Vous voyez, en bas de la page, on met ce que la biologie dit. Au-dessus, on met ce que la philosophie dit. Il faut respecter les dignités. Sous-sol, on fait la cuisine. Puis, on regarde au plan philosophique. Parce que la biologie peut nous donner des quantités de précision sur la causalité matérielle, de façon générale, la disposition. C'est la disposition qu'on regarde. Et dans le domaine du régime, de la nourriture, c'est évident qu'on peut dire des choses étonnantes. Mais même maintenant, vous savez, parmi les médecins, j'en ai une expérience il n'y a pas longue, pas longtemps. Dernier jour où j'étais à l'hôpital, une infirmière très gravement est arrivée avec un papier. Ça m'a dit, vous pouvez prendre ces aliments-là, mais non, pas les autres. Il faut prendre un régime, ça, c'est très nécessaire. C'est nécessaire. Je dis pour combien de temps? Au moins pour un an. Bon. Heureusement qu'après, je vois un médecin que j'avais quitté. Puis j'ai dit, docteur, est-ce que vous croyez que je dois suivre ça? Ça, c'est les infirmières qui disent ça. C'est les infirmières qui disent ça. Il faut bien qu'elles dominent sur un point. Alors, elles donnent un régime. Ça ne sert à rien. Vous êtes suffisamment intelligent pour savoir ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît pas. Pas de régime. Oh, je dis merci. Je demande que ça. Il dit ça très sérieusement, un médecin très sérieux, pas du tout un blagueur. Si c'est très mauvais, les régimes. Parce que ça empêche l'animal qui mange de s'assouplir. Évidemment, quand il est déjà vu avant l'âge, alors à ce moment-là, il a beaucoup de peine à s'assouplir, alors on fait ça, on fait un régime. Puis c'est très mauvais. Regardez les bêtes comme elles se nourrissent. Elles sentent. Évidemment, nous, on sent moins bien. Quoique, c'est quand même, hein, à peu près. Et puis le dernier, c'était le mieux. Il m'a dit, surtout mon père, je vais un conseil à vous donner. Alors je lui ai dit, je le reçois avec beaucoup de gens, beaucoup de remerciements, de reconnaissance. J'ai un conseil à vous donner, mon père. Ne vous installez pas dans la convalescence. Alors, j'ai dit, merci. Parce que ce qui est le plus dangereux, c'est s'installer dans la convalescence. On voit très bien ce qu'il veut dire. On se tape le pouls. Dans la mesure où on se donne, il y a une espèce de force vitale. Évidemment, quand on est trop fatigué, c'est impossible. Mais la convalescence, c'est quand on remonte. Quand on descend, c'est différent. C'est pas parce que ça fait des courbes. Alors, la vie végétative, philosophiquement, c'est là où on capte en premier lieu le vivant. Le premier degré de vie, c'est la vie végétative. Or, comme on ne fait pas la vie, la philosophie de la plante, je ne peux pas. Si je veux saisir le vivant, on serait tenté de faire comme Descartes, de dire je vais commencer ma philosophie du vivant par la conscience, par le cogito. C'est là où je saisis le mieux le vivant. Pourquoi Aristote, délibérément, commence sa philosophie du vivant par la vie végétative? Si vous lui aviez donné un conseil en homme du XXe siècle et de la fin du XXe siècle, vous auriez dit, écoutez, Descartes vous a donné un exemple merveilleux. Je ne sais pas ce qu'Aristote dit avec Descartes. Je crois qu'ils doivent se disputer pas mal. Si tous les deux sont au ciel, ils doivent se disputer pas mal. Le dialogue entre Descartes et Aristote, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Descartes commence par le cogito et Aristote commence par la nutrition. Très bien Descartes, c'est facile à comprendre. Je commence par la conscience réflexive. J'ai parfaitement conscience quand je pense. Ma nourriture, ma nutrition, est-ce que j'en ai conscience? Il vaut mieux pas en avoir conscience pour bien digérer. Vous savez bien, si vous avez trop conscience de ma digestion, vous risquez de mal digérer. C'est vrai, ça. Si vous pensez trop au moment de votre digestion, ça n'ira pas. Alors, je comprends très bien, puisque le vivant, c'est celui qui se meut. Donc je commence par le cogito. Là, je cogite très bien et je sais cogiter sur le cogito. Parce que je peux réfléchir sur mon acte de connaissance. Et sur mon acte de connaissance, je sais à peu près comment ça se passe. À peu près. Quand je pense, quand je médite. Et la nutrition. Est-ce que vous avez conscience de votre nutrition? Vous avez conscience de votre nutrition quand vous avez mal à l'estomac? Alors à ce moment-là, on dit oui, oui. Ça dure un certain temps, mal à l'estomac. J'ai pris telle chose, oh, c'est pas étonnant. Chaque fois, ça me donne mal à l'estomac. Donc, vous avez conscience du manque de nutrition, ou d'une mauvaise nutrition, ou des défauts de nutrition, pas de la nutrition. Quand la nutrition se passe bien, vous n'y pensez pas. Est-ce que vous avez bien digéré après le repas aujourd'hui? Il n'y a pas pensé. bien que vous saviez très bien que vous allez faire un cours de philosophie du vivant. Quand vous prenez votre petit déjeuner, et vous ne pensez pas à la nutrition, vous pensez tout simplement que vous mangez. Quand vous y pensez un peu, et puis la nutrition, ça se fait tout seul. C'est curieux. Pourquoi Aristote, en philosophe du vivant, qui fait le philosophe du vivant de l'homme, commence par la nutrition? Je me suis toujours posé la question. Faut beaucoup, ça avance énormément, vous savez. Et si vous avez un petit peu d'art, faites un dialogue, nouveau dialogue, Aristote-Descartes. C'est très intéressant de faire vivre Descartes face à Aristote. Évidemment, à la fin du dialogue, vous mettez Descartes en dessous de tout. Et c'est Aristote qui domine, c'est évident. Mais c'est intéressant pour chaque partie de la philosophie. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire après Descartes et Sartre. Parce que Descartes et Sartre s'entendent. C'est un dialogue auquel Sartre conclut: si tu avais été à mon époque, tu aurais rejeté Dieu. Tu l'as accepté par convention. C'est purement conventionnel. Ça ne fait pas partie de ta philosophie. Tu es obligé de faire des tas de trucs qui sont absolument impossibles. Et Sartre aurait démoli la démonstration modo-géométrico de Descartes. En montrant que c'est absurde. On ne peut pas faire une démonstration modo-géométrico de Dieu. Oui. C'est comme ça que l'histoire de la philosophie est intéressante. C'est quand vous dialoguez de l'un avec l'autre. Ah, ça, c'est très intéressant. Si vous avez un petit peu d'art, faites ça. Le dialogue de Aristote et Descartes sur la philosophie du vivant. Vous verrez, c'est passionnant. Parce que Aristote fait poser des questions à Descartes. Et Descartes fait poser des questions à Aristote. Alors ça, c'est très intéressant. Et si vous aviez le temps, pendant que je fais le cours de philosophie du vivant, vous étudieriez Descartes. Alors vous auriez des objections constantes, constantes. Au bout d'un certain temps, je verrai d'où viennent ces objections. Je dirais, c'est Descartes. C'est toujours intéressant, vous voyez, c'est là où l'histoire de la philosophie est intéressante. Parce qu'elle met en opposition quand même des gens intelligents. L'Olympe des philosophes, c'est assez intelligent. C'est assez astucieux. Alors on voit ces gens-là qui discutent l'un par rapport à l'autre. Pourquoi Aristote met-il d'abord, première étude, la vie végétative? Parce que la vie végétative est la plus proche de la philosophie de la matière. C'est là où la vie a le moins d'originalité. Et c'est d'autre part l'opération fondamentale. Pas de vivant sans vie végétative. C'est une condition sine qua non de tout vivant biologique. Donc, si c'est fondamental, il faut que ce soit regardé en premier. Parce que ça conditionne tout le reste. Et c'est vrai, la vie végétative conditionne tout le reste. Ne détermine pas, mais conditionne. Si j'ai trop mal à l'estomac, c'est difficile de faire de la métaphysique. Post-chiboum, on n'est pas très bon à faire de la métaphysique. C'est pour ça que quand on veut être philosophe, on a un peu d'assaise. C'est nécessaire pour que l'intelligence arrive à dominer pleinement. Si vous mangez trop, vous ne pouvez pas être philosophe. C'est impossible. Et on voyait très bien un pythagoricien, par exemple, avait un régime très sévère. Les légumes qu'on pouvait prendre, les légumes qu'on ne pouvait pas prendre. Les légumes qui alourdissaient et les légumes, au contraire, qui spiritualisaient, si j'ose dire. Ou qui laissaient le spirituel. Alors, tout ce que je dis demanderait d'être complété. Et je crois qu'il faudrait le faire aujourd'hui. Et ce serait très intéressant. ceux parmi vous qui ont fait de la biologie, essaient de se rappeler qu'est-ce que ça représente, la nutrition. Qu'est-ce que dit le biologiste là-dessus? Qu'est-ce qu'il dit? Il donne des lois. Il essaie de comprendre. Et puis essayer de voir des gens à régime sévère, qui imposent un régime et qui disent, si vous prenez ce régime, on va vous sauver. Si vous ne prenez pas ce régime, je ne peux rien faire pour vous. C'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce qu'il recommande? Alors, au plan philosophique, vous voyez, j'étudie toujours peu la causalité matérielle. Toujours. Ce qui intéresse le philosophe, c'est la causalité efficiente, la causalité formelle et la causalité finale. Ces causalités que la science peut très peu étudier. Très peu. Si vous regardez un traité biologique sur la nutrition, vous voyez que ce qui intéresse avant tout, c'est tout ce qui peut se dire du côté matériel. Là, on donne des tas de précisions très intéressantes. Et on voit très bien comment on peut changer le régime de quelqu'un, et en changeant le régime de quelqu'un, on agit sur ses nerfs, on agit sur ses réactions. Donc, on dit, voyez, c'est le régime qui fait tout. Non. Il est sûr que quand vous prenez du poison, en une certaine quantité, c'est la nutrition. Vous empoisonnez quelqu'un. Empoisonner quelqu'un, c'est l'inverse de la nutrition, de l'assimilation. Inassimilable. Et alors, immédiatement, ça s'introduit dans le sang. Et ça empoisonne. C'est ce que fait le serpent qui pique dans le sang. C'est pour ça que le venin opère si vite. Parce que c'est tout de suite dans le sang. Et les produits toxiques, c'est tout de suite dans le sang. Et alors, ça agit avec une force et une violence étonnantes. Vous voyez ? Alors là, c'est quand même très intéressant de voir que certains produits sont toxiques et tuent. C'est évident, vous pouvez vous suicider par certains produits en vente chez le pharmacien. La grosse bêtise. Vous pouvez acheter ça chez le pharmacien. Comme vous pouvez vous fabriquer des petites drogues en achetant certains produits chez le pharmacien. Facile à faire. On croit que tout le monde est sage et qu'on ne va pas avoir la tentation de se suicider. Je connais des personnes qui voyagent toujours avec un produit toxique et qui peuvent se suicider dès que ça ne va plus. On en est là dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Le nombre de suicides augmente. Vous voyez, le suicide, c'est la nutrition à l'envers. Ça, c'est sûr. Pour montrer l'aspect fondamental de la nutrition. C'est pas mauvais de se rappeler ça. Des traités sur les produits toxiques, c'est intéressant. Ça, on peut le faire aujourd'hui. Hein. Un bon pharmacien vous le fait. Un traité sur les produits toxiques qui risquent de... en suivant certaines méthodes. Le philosophe regarde, lui, l'aspect positif, l'assimilation. L'assimilation de la respiration, l'assimilation de l'aliment, l'assimilation de la boisson. Se nourrir, c'est le propre du vivant. Respirer, c'est le propre du vivant. Et c'est un acte d'autonomie du vivant. La première respiration de l'enfant quand il vient de naître. Parce que tant qu'il est dans le sein maternel, il n'a pas d'autonomie vitale. Sa vie est toute relative à sa mère. Il a un chiffre biologique, mais il n'a pas d'autonomie vitale. C'est très curieux. Comment Dieu a pensé la procréation? des choses extraordinaires. C'est très étonnant, ça. Et la première autonomie vitale, c'est à la naissance, à la première respiration. Respirez l'oxygène. Vous assimilez l'oxygène. Puis vous assimilez la nourriture. Avant, l'enfant se nourrissait très longtemps du sein maternel ou du lait. Très longtemps. On dit que Plotin, c'est pour ça qu'il est ici philosophe, le sevrage s'est fait à 7 ans. C'est extraordinaire. Alors là, ça a dû avoir des conséquences. Aujourd'hui, vous voyez, la rapidité, c'est très curieux. Une grand-mère, quand elle voit la manière dont on nourrit les enfants aujourd'hui, dit « j'y comprends rien ». Je comprends, elle n'y comprend rien, ça a changé. La nourriture, qu'est-ce que c'est au plan philosophique? Je crois qu'il y a une philosophie de la nourriture qu'il faut faire, oui. Produit toxique, produit assimilable. L'aliment, c'est le produit assimilable. Tout ce qui est aliment est assimilable. Ce qui ne l'est pas n'est pas un aliment. Mais dans la nutrition, l'aliment joue quel rôle? Est-ce que l'aliment va spécifier la nutrition? Mais c'est des questions très bêtes, hein, qu'on se pose au plan philosophique. Les savants ne s'imposent plus. Mais les philosophes s'imposent. Est-ce que la nutrition, est-ce que l'aliment, philosophie de l'aliment, hein, est-ce que l'aliment spécifie la nutrition? J'ai mangé des petits pois, ou des gros pois. J'ai la nutrition des petits pois. Est-ce que votre nutrition est spécifiée par l'aliment? Je suis sûr que vous ne sauriez pas répondre. Mais peut-être bien que oui, bien que non. Ou est-ce que votre nutrition est déterminée par votre vie végétative? Est-ce que votre nutrition est la même que celle de la vache? Les vaches ont deux estomacs. Vous savez bien. Elles ruminent. C'est pour ça que c'est si beau. Vous voyez, oui, c'est le signe de la méditation. Elles ruminent. Elles mangent. Première nutrition, seconde. Vous n'avez pas deux estomacs. Avec un normalement, parce que je peux y avoir des déformations et des vieux restes de l'âge témoin d'un âge révolu. Deux estomacs. Au fond, votre nutrition est déterminée par votre vie végétative. C'est vous, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant que tout petit, ou en tant qu'adulte, ou en tant que malade, ou en tant qu'ayant subi une opération, qui avait votre rythme de vie végétative. Et quand vous êtes un régime où vous êtes alimenté d'une manière artificielle, c'est très curieux. Ce n'est plus d'une manière absolue, votre rite de vie végétative. On vous fourre des produits directement pour que vous puissiez continuer une survie artificielle. On ne se nourrit plus l'estomac et mis au repos. Il ne faut pas le fatiguer. C'est très curieux. Et c'est très intéressant philosophiquement de voir ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Vous voyez, un poumon d'acier, l'être ne respire plus. C'est la machine qui respire pour lui. quand les gens sont dans le coma, et ça peut durer des années, des années. Un poumon d'acier fait que la respiration, on peut la remplacer. Et alors c'est le poumon, d'acier qui respire pour vous. Ce sera drôle. Et la nourriture, c'est comme ça. On vous donne une nourriture artificielle. Oui. Alors que lorsque vous mangez, c'est vous. C'est pas quelqu'un à côté de vous. C'est vous qui mangez. Et votre vie végétative, alors, c'est... Quelle est... J'analyse, hein, je vais analyser la nutrition. Quelle est la cause efficiente de la nutrition? Ben, c'est évidemment le vivant de vie végétative. L'homme de vie végétative, c'est votre vie végétative. Il y a sûrement une puissance de vie végétative capable de s'assimiler la nourriture. Et de faire que dans la nourriture, il y a l'assimilable et le non-assimilable. Et le jour où il n'y a plus cette distinction qui se fait naturellement, instinctivement, entre l'assimilable et le non-assimilable, on s'empoisonne. Le toxique vient petit à petit empoisonner l'homme, sa vie végétative. Le grand vivant, celui qui se porte bien, c'est celui qui fait cette séparation. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, je constate. Hein, je ne constate pas avec le microscope électronique. Je constate. C'est vrai. Il y a un bon médecin. Fait cette constatation, il voit tout de suite si la vie végétative va bien. Première chose à faire, hein, parce que c'est le fondement. Alors, est-ce qu'il assimile bien? Est-ce que vous assimilez bien? Est-ce que vous ne mettez pas trop longtemps à assimiler? Est-ce que votre repas, ça ne dure pas jusqu'à 6 heures de l'après-midi? C'est des gens comme ça, ils assimilent jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Parce que tout est au ralenti. C'est poussif. Mais les gens qui ont le poumon très fatigué, ils respirent avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Je me souviens, ça. C'était peu de temps après la guerre, dans un sanatorium, où je voyais une petite carmélite que je connaissais bien, qui était là, mourante. Elle respirait, c'était affolant. Alors un jour, elle m'a dit, ah, donc elle était dans l'altitude, ce qui est le plus pénible, c'était une sainte petite religieuse, hein. Ce qui est le plus pénible, c'est de voir tous ces jeunes amis qui, après avoir skié toute la journée, par affection pour moi, viennent me voir. Ils respirent, et ils s'aperçoivent pas comme moi, à chaque respiration. Je me demande si c'est pas la dernière. Ça m'est resté, ça. Ça fait comprendre ce que c'est que la respiration. Vous voyez, quand elle est comme ça, c'est toujours par la négation qu'on comprend des choses qu'on vit habituellement. Bon, vous voyez, je prends exprès l'aspect négatif. On nourrit artificiellement. On prend le poumon. Quelqu'un qui n'en peut plus et qui respire très difficilement. Et qu'il voit un ami arriver, qu'est-ce qui est tout l'après-midi. Et le skieur, c'est particulier. Hein, parce que il est dans une respiration extraordinaire. C'est merveilleux, du reste. Pour celui qui vit pleinement. Parce qu'il est porté par le parle. Puis là, avec l'altitude, on respire pleinement. Et puis alors, pauvre petite, là, et les autres font pas attention. On voit très bien. Ils arrivent à plusieurs, deux ou trois. Pas attention du tout. Et elle ne dit rien. Elle le dit après à quelqu'un, c'est qu'elle peut le dire. C'est ça qui fait comprendre positivement la respiration. La nutrition, on se nourrit. L'aliment, c'est donc ce qui est assimilable. Et quand je dis ce qui est assimilable, est-ce que l'aliment, je reviens à ma question, puisque je constate que la nutrition est une assimilation, quelque chose d'extérieur à moi devient moi, au bout d'un certain temps. Ça devient mon sang, ça devient mes os, ma chair. C'est extraordinaire, ça. C'est une machine invraisemblable. Il suffit de voir ce que c'est qu'un poumon d'acier. Et nos petits poumons, hein, rien du tout. Quand ça ne marche pas, il faut le poumon d'acier. Et quelqu'un qui est nourri artificiellement, tout ce que ça comporte. Il faut qu'une infirmière soit là pour vérifier tout le temps. Et nous, sa machine, ça marche automatiquement. Même pas remonter le matin et le soir. Ça marche. Bien sûr, étant extraordinaire, étonnante. Alors, la nutrition, est-ce que l'aliment détermine? Parce que la nutrition implique un aliment. La respiration implique de l'air. Et un air non pollué. Et quand l'air est trop pollué, on ne peut plus respirer. Il faut que l'oxygène soit là pour que je puisse respirer. Alors, est-ce que l'oxygène détermine votre respiration? Est-ce qu'en étudiant l'oxygène, vous allez comprendre votre respiration? La cause formelle, c'est celle qui spécifie. Vous n'avez jamais pensé ça, je suis sûr. Est-ce que le café détermine votre assimilation? Est-ce que la tartine beurrée et la confiture, ça coule plus vite, détermine votre nutrition? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Ce n'est pas indifférent, ce n'est pas indifférent à votre nutrition de prendre telle ou telle nourriture. Donc, ce n'est pas purement matériel. C'est de l'ordre de la disposition, je crois. Ça conditionne. Et il y a une limite. Ça conditionne. Il y a des produits toxiques. Donc, il y a une situation limite. Un aliment qui n'est pas assimilable, eh bien, va être un obstacle à l'assimilation. Surtout si vous en prenez un peu de trop. Ou si vous prenez que cela. Perdu dans l'alimentation, ça va encore. On prend des poisons tous les jours. Hein. Le tout, c'est que ce soit à dose. Pas trop grande. Vous voyez, c'est quand même difficile d'analyser ce que c'est que la nutrition. La cause efficiente. Ah oui, très bien, c'est le vivant. La cause finale. Oh, très bien, c'est la survie du vivant. Réparer ses forces. Cette machine de vie végétative, elle s'use. Elle s'use. Puis elle dépense des forces. C'est le fondement. Tout repose là-dessus. Quand vous travaillez, mais vous dépensez l'énergie. Il faut récupérer ça. Et vous récupérez ça comment? Mais en vous nourrissant. Donc la cause finale de la nutrition, c'est pour que le vivant dure. C'est la durée. Vous savez que la durée est une dimension très importante pour le vivant. Et la durée apparaît avec le vivant. Ça, c'est intéressant. Il faudra se demander qu'est-ce que c'est que la durée, puisque c'est propre au vivant. Qu'est-ce qui est encore propre au vivant? Le repos. Dormir. Seul le vivant dort. Seul le vivant se repose. Dans la vie purement physique, il n'y a pas de repos. Parce qu'avec la vie, il y a un rythme de vie. La vie végétative apporte son rythme de vie. Alors vous voyez, quand j'analyse par les causes, pas si commode que ça, est-ce que c'est le vivant qui donne le caractère spécifique de votre nutrition? Il y a quelque chose de vrai. C'est que l'homme assimile autrement que la vache. L'homme assimile autrement que le canard, autrement que la plante. tous à 6000, mais selon des modalités différentes et selon le caractère spécifique du vivant. Donc, cause efficiente et cause formelle sont unies. C'est important. C'est très important de comprendre ça. Vous verrez. Je crois que le vivant détermine l'assimilation. C'est pour ça que quand il est fatigué, la détermination se fait beaucoup moins bien et il assimile beaucoup moins bien. Bien qu'il y ait la même nourriture, là on aura peut-être un peu moins, mais c'est la même nourriture. Vous donnez la même nourriture à un vivant qui se porte bien, à un vivant qui est malade, les effets sont tout à fait autres. Ce qui prouve bien que la nourriture ne spécifie pas, qu'elle est du côté de la cause matérielle et donc du côté de la disposition, qu'elle est une condition sine qua non, mais elle ne détermine pas. Qu'est-ce qui détermine? C'est le vivant de vie végétative qui détermine au plan de l'efficacité, ça c'est sûr. Il se meut en se nourrissant. Il détermine, il mesure, il imprègne, ça c'est mystérieux, il va imprimer, imprégner l'aliment de quelque chose qui vient de lui. Vous l'appellerez comme vous voudrez, quand l'aliment descend dans l'estomac, vous savez bien, pour être assimilé, il faut que l'estomac réagisse. Et quand l'estomac ne réagit plus, on donne un médicament pour remplacer. Il faut que l'estomac réagisse, et l'estomac réagit. Il réagit pour permettre l'assimilation. Et il détermine lui-même le rythme de l'assimilation. Un homme assimile de telle manière, une vache assimile de telle autre manière. Chaque animal a son rythme de vie végétative. Chaque plante a son rythme de vie végétative. Et je ne dis pas individuellement, l'espèce. Et en plus de l'espèce, puisque chaque homme a son chiffre biologique, chaque individu à son rythme de vie, d'assimilation. C'est pour ça que pour certains, il faudra une certaine dose de toxiques et de poisons pour les tuer, à d'autres, beaucoup moins. Ça, c'est très net. Il y a des éléphants. Il faut une certaine dose pour les empoisonner. Si vous mettez la même dose pour l'homme, ça ne va plus du tout. Et on sait bien ces choses-là, vous voyez. Quand on invente un produit pharmaceutique et qu'on l'expérimente sur des petits animaux qui sont faits pour ça, ils sont appelés comme ça, ces petits animaux, ils sont faits pour ça, ils sont très gentils. Parce qu'ils aident l'homme à voir si l'aliment est bon. Ce sont des pauvres petits esclaves de l'homme. Ils acceptent de mourir pour l'homme en expérimentant tel ou tel aliment. Et quand vous voyez que ça se porte bien sur l'animal, vous le transposez sur l'homme et vous avez des surprises. Des surprises invraisemblables. Parce que vous oubliez quelque chose de fondamental, c'est que le rythme de la vie végétative n'est pas le même pour le petit cobaye, ce petit animal, si on dit, et l'homme. Il y a un rythme différent. Et en plus, chaque individu a le sien. Parce que ma vie est individuelle. Alors voyez, philosophiquement, quand vous analysez ce que c'est que la nutrition, ce que représente la respiration, vous dites assimilation vitale. Quelles sont les causes et la recherche des causes de cette assimilation vitale? Le vivant, cause efficiente, il se meut. Ça c'est sûr. Et radicalement, c'est l'âme végétative. Et d'une façon tout à fait propre, c'est la puissance de vie végétative. Et je dis bien la puissance de vie végétative, qui implique un organe. Alors l'estomac assimile. Ça c'est sûr. Le foie joue un rôle. Puis ainsi de suite, il y a tout un ensemble d'organes qui sont nécessaires pour que l'assimilation se fasse parfaitement. Puis une fois que vous en enlevez un, puis l'assimilation continue. C'est très curieux. Chez le vivant, il y a des tas de choses qui ont l'air un peu supplémentaires. On peut les enlever, puis ça continue de vivre. Il y a une surabondance. Mais tôt ou tard, on s'aperçoit, tiens, on a enlevé ça. Ou bien là, il y a des suppléances. C'est la chose la plus admirable. Quand on enlève un organe, pas un organe supérieur, hein. Quand vous enlevez le cerveau, difficile. Quand vous enlevez la moitié du cœur, les deux tiers du cœur. Il y a un tout petit cœur qui continue. Vous pouvez enlever partie de l'estomac. Alors vous devez faire attention. C'est très très curieux, vous voyez. C'est pas étonnant, c'est matériel. Vous ne pouvez pas enlever l'âme. Or, la dunamis provient de l'âme, pas du corps. Pas l'oublier, ça. Et le philosophe doit le rappeler. Et le philosophe le constate, ça, aujourd'hui. Parce que si ça venait du cœur, si ça venait du corps, on ne pourrait pas continuer de vivre avec un estomac réduit à presque rien.
Si on enlève le cerveau,
on peut enlever des parties. On peut enlever la partie mémoire, sans pas grande importance, puisque on a l'ordinateur. Donc, vous enlevez ça, qui a une très bonne mémoire, lui. Un peu trop rigoureuse, parce qu'elle est toujours la même. Elle vous répétera indéfiniment jusqu'à la fin du monde le même discours. Sans varier. Comme des très vieux professeurs qui racontent toujours la même chose. La mémoire. La mémoire humaine est bien plus complexe. Pour enlever des parties. Vous voyez, c'est ce qu'on dit toujours. Quand il y a beaucoup d'accidents de voiture, quand il y a des guerres, on fait des progrès énormes en chirurgie. C'est la finalité, vous voyez. Dieu permet les guerres, Dieu permet les accidents pour progresser en chirurgie. Le tout, c'est de ne pas être accidenté. Parce que lui, il a offert sa vie pour ça. Sans le vouloir, du reste. Sans l'accident. Mais, per accidens. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que l'âme spirituelle qui informe le corps est source de toutes les facultés. C'est pas le corps. Le corps est le support matériel. Organisé, très bien organisé. Le support matériel. Ce qui fait comprendre comment on peut en enlever une partie. Mais jusqu'où pouvons-nous racler le corps, hein, point de vue ascétique. Qu'à partir d'un certain degré de fragilité, de maigreur, on ne peut plus revenir. Ce qui prouve qu'à ce moment-là, la puissance végétative n'a plus assez de support matériel pour pouvoir s'exercer. C'est très très curieux. Ça c'est intéressant, vous voyez, ces détails-là sont très intéressants pour comprendre l'information de l'âme par rapport au corps. Et la vie végétative est le lieu par excellence, pour comprendre cette information. Et c'est là où la science peut nous apporter des précisions. Mais faisons attention, je ne suis aucune des conclusions du scientifique. J'écoute ses descriptions. J'écoute son expérience, mais pas ses conclusions. Parce que lui, il regarde la vie végétative uniquement du côté du support matériel. Donc il ne la connaît pas. On ne peut connaître la vie végétative que c'est une connaissance de l'âme végétative. Que c'est une connaissance des facultés sous-jacentes au corps et présentes, toujours présentes. Oui, là, la connaissance de l'âme est primordiale. Mais cette connaissance de l'âme se fait par les opérations. Or, ordinairement, le philosophe ne s'inquiète pas trop de la vie végétative. Il laisse le médecin s'en occuper. Il laisse les infirmiers et les infirmières s'en occuper. Eux sont très attentifs à ça. Il y a des tableaux pour voir si la fièvre a augmenté ou pas, toutes les choses possibles. Le philosophe ne va pas mettre son nez là-dedans. Il devrait peut-être, s'il faisait, vous voyez, le Saint-Père dit qu'il faudrait une philosophie du corps. Et je crois que c'est ça que le Saint-Père veut dire. Il faudrait une philosophie du corps. Comprendre ce que c'est que la souplesse du corps. Comprendre ce que c'est que la nutrition. Comment réparer certaines faiblesses. Comment le sommeil répare. Et comment la nourriture répare, et comment la respiration répare. Pas du tout de la même façon. Donc il faudrait réfléchir là-dessus. Et moi je suis persuadé que si le philosophe réfléchissait sur ces données de biologie d'aujourd'hui, il pourrait apporter aux médecins, aux biologistes, certaines lumières. Pas énormes, hein. Pas énorme. Parce que la vie végétative, je vous l'ai dit tout à l'heure, son principe efficient, son principe de détermination vient de l'âme, vient du sujet.